Eh bien, bonjour à tous, ici Samuel Hendrix de Radio Pays des Rois RPHU, en compagnie de Maëva de Radio Sommière, et nous nous trouvons actuellement sur le patio pour le dernier concert de Victoire 2, le Goûter Pop, en compagnie de Rémi de la Jungle. Alors, c'était très jungle, c'était très exotique, c'était très sauvage. Est-ce qu'on peut revenir sur ce concert?
Bah, c'était en plein cagnard, c'est pas tous les jours. Il y a eu la question de la tonnelle à un moment, et finalement on l'a enlevé. Et puis le soleil a bougé pendant le concert, et puis j'ai eu mon quart de cagnard pour moi tout seul. Même les gens n'avaient pas le cagnard, j'étais le seul. L'alignement fait que c'était pour ma gueule, voilà. C'était super.
Non, pour de vrai, on t'a plaint un peu, on t'a vu transpirant, donnant tout ce que t'avais sur la batterie.
À chaque boulot a ses trucs emmerdants, et aujourd'hui c'était le soleil, et puis voilà. Puis on va pas s'en plaindre, donc, pour une fois qu'on est dans le sud, voilà. C'est bien quoi.
Parce que vous venez de Belgique, donc de Mons, à côté de Bruxelles, c'est ça?
Oui, donc on vient de Mons, et de Bruxelles, et on tourne beaucoup en France. Après, le sud-est, c'est pas tout le temps, du coup c'est bien de venir de temps en temps. Et voilà. C'est cool. Montpellier, en fait, ça fait la dernière fois qu'on a joué à Montpellier, c'était en 2016, donc c'est il y a 7 ans déjà. Et pourtant, on a fait 600 concerts en tout en 10 ans, mais là, c'est bien de revenir dans le coin. Voilà.
Et, vous êtes là dans le cadre d'une tournée, peut-être dans le sud, ou comment vous êtes arrivé à Montpellier, Saint-Jean-de-Védas?
On a 80 concerts cette année, plus ou moins, et on sort un album aussi, qui est sorti le 23 juin dernier, qui s'appelle Blurry Landscapes. Et cette année, on a 80 dates. Et puis là où on nous invite à jouer, nous on vient, et puis on colle les dates les unes aux autres et on essaye de faire un routing. On a commencé dans la Creuse, au milieu de la France, on est descendu et là en 7 dates on va remonter jusqu'au Paléo Festival mardi en Suisse, à Nyon, avec les Black Eyed Peas. Yes. Voilà.
Parmi les évolutions de l'album, on avait le symbole de la pastèque. Là, on va vers le symbole du singe sur le dernier album. D'ailleurs, une des étiquettes que vous avez derrière avec les synthés, enfin les enceintes orange, vous les avez changées en orang-outan. Donc, c'était une petite référence à ce dernier album-là, qui est basé sur l'art brut, hein, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. Donc, il y a ce sixième album. En fait, il y a une vingtaine de collaborateurs, des illustratrices et des illustrateurs. On a travaillé avec plein de lieux de création liés à l'art brut et à Roadsider en général. Et donc en gros, chaque titre de l'album, il y en a 11. Chaque titre est illustré par un artiste qui a eu carte blanche. Donc il y a 11 artworks à retrouver à l'intérieur du CD ou du vinyle, il y a un petit livret dedans. Et puis il y a des portraits de la jungle qui ont été faits par des artistes en atelier, tout ça. Donc on voulait vraiment aller plus loin. En fait, ça s'est passé pendant le Covid. On a écrit deux albums pendant le Covid, dont celui-là. Et puis il faut dire aussi qu'on s'emmerdait pas mal pendant le Covid parce qu'on a été privé de... Ce qui nous prenait en fait la plupart de nos agendas, c'était les tournées en fait, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de groupes. Et du coup, on s'est dit on va pousser un album plus loin, pas juste de la musique. Et du coup, on a un peu développé tous ces échanges et ces rencontres avec l'art brut, quoi. Ce qui donne aujourd'hui Blurry Landscapes. Ce que cet album a de flou, c'est justement tous les échanges dont je parlais tantôt avec les artistes outsiders, donc qui ont, avec leur art brut, interprété les morceaux graphiquement pour donner une interprétation du titre. Mais je pense qu'il y en a plein. C'est que parfois c'était très abstrait en fait comme relation avec eux, parce que parmi ces artistes, il y en a qui sont porteurs de handicap, qui s'expriment très peu verbalement, etc. Et du coup, ils nous ont parfois dessiné des œuvres que vous trouvez dans le disque, mais ils n'ont pas pu nous expliquer de quoi il s'agissait. Et on ne saura jamais vraiment, il y a un truc qui est assez flou justement, c'est qu'on ne saura jamais si vraiment ils ont pris en compte le morceau qu'ils ont entendu pour illustrer l'album en fait. Mais du coup, il y a tout ce côté, ils ont fait des paysages, ils ont fait tout un paysage graphique. Mais le lien avec la musique est assez flou, c'est un peu ça qu'on a voulu décrire en fait, c'est que on saura jamais vraiment si ce truc a du sens, mais on l'a fait, c'est le plus important. Voilà.
Pour ceux qui t'ont pas vu jouer, qui ont pas vu encore la jungle en live, c'est ça, c'est des sons encore une fois très très bruts. Des fois tu passes même une minute à taper sur ta cymbale pendant le truc. Comment tu pourrais caractériser toi ta manière de jouer aujourd'hui par rapport justement à d'assumer cette manière un peu binaire, brutale de jouer?
Moi je dis je fais plus de la musique. Enfin, je fais de la musique, mais je suis pas musicien. Pour moi, c'est deux choses un peu différentes, en fait. Je veux pas jouer sur les mots, mais moi, je fais un peu les choses. Je fais comme je le sens. J'ai pas envie de le mentaliser ou de l'intellectualiser ou d'avoir le concert parfait ou d'être le musicien parfait. Donc, ce qu'on fait là, ben, c'est ce qu'on sait faire le mieux, je crois. Enfin, je le suppose. Et ça donne ce que ça donne, en fait. Il y a pas de. Nous, on va pas se contraindre à faire des morceaux plus easy listening pour passer en radio, des choses comme ça. Du coup, voilà. Aujourd'hui, ce que les gens y voient, c'est le fruit de 600 concerts, et du coup il y a un peu une aisance, il y a un vocabulaire qui s'est développé, et c'est difficile de le décrire en fait, parce que c'est un vocabulaire justement, donc en fait c'est des habitudes, c'est des réflexes, c'est une communication entre Mathieu et moi, et puis voilà, et puis toujours du mal à dire ce que je fais comme musique, donc venez voir le concert, il y en a tout le temps et partout, donc voilà, normalement ça passe près de chez vous à un moment ou à un autre, voilà, faut aller sur le site et regarder les dates.
Moi ouais, j'aimerais bien, si c'est possible pour toi, que tu nous expliques un peu tout le matos que vous avez sur scène, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même.
Alors il y a une batterie, moi je joue sur une batterie qui est assez simple en fait, donc il n'y a pas beaucoup de cymbales, je ne suis pas de la culture métal ou tous ces trucs là où il y a énormément de matos, une batterie très simple. Je préfère déjà savoir faire la batterie sur un kit très simple que sur un gros kit et pas savoir quoi en faire. Et puis Mathieu, ben, lui c'est plus complexe parce que du coup la jungle c'est basé beaucoup sur des loops, du coup il faut pas mal de pédales d'effet, tout ça machin. Et puis on est que deux et du coup pour donner l'impression qu'on est 8 comme sur les albums, ben, il faut qu'il y ait quand même un peu de mécanique quoi. Et puis il y a le mur d'ampli de Mathieu qui est là pour pas pour que ça ait de la gueule ou quoi, c'est plus pour qu'il y ait le son en suffisance. Ce qui nous permet aussi de jouer dans des gros formats en festival comme des formules plus petites. Et même aujourd'hui on va jouer avec une sono par exemple, des fois on joue sans sono. Et c'est suffisant en fait parce que voilà, c'est très punk, c'est très DIY, mais ça fonctionne aussi quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment notre base, c'est un peu notre maison ce matos quoi, c'est pas tout ce qu'on a, on a des familles etc, mais par contre si on n'a pas ce matos on n'arrive pas à faire la jungle quoi, le matos comme nous on en a envie, c'est à dire avec ce mur d'ampli machin qui joue très fort, oui la caisse claire va très fort, mais c'est le son qu'on a développé une fois de plus, c'est 10 années de travail quoi et de tournée pour arriver aujourd'hui à un truc qui nous est propre, voilà.
Et le petit synthé aussi un peu vintage là?
Oui. Alors ouais, le synthé, alors ça s'est passé comment le synthé? C'était nos premières répétitions du côté de Mons dans un endroit un peu pourri et très humide je me rappelle, et puis il y avait ce synthé qui nous appartenait pas et qui traînait en haut d'une étagère, et puis on s'est renseigné et on a vu qu'il y avait une banque de sons mais qui date des années 80 en fait, du coup c'est un synthé qui existe plus maintenant, du coup nous on en gratte sur eBay pour 30 balles pour être sûr d'avoir du rab au cas où il y en a un qui lâche. Après c'est assez solide, mais oui il y a une banque de sons des années 80 qui est hyper intéressante, c'est chez Casio, voilà, je fais pas la promotion d'une marque, mais les synthés de cette époque sont hyper bien, et à la base c'est pas des synthés pour musiciens, c'est des jouets pour enfants en fait.
Voilà. Au niveau de la technique, le Mathieu chanteur relève son micro un peu au-dessus de sa tête. Il y a déjà cette envie de propulser la voix, d'être dans un truc de gargarisme. Est-ce que ça s'était présent dès le début ou c'est quelque chose aussi qu'il a développé de vouloir hurler comme ça au ciel presque, on va dire.
C'est des trucs qui n'étaient pas du tout présents en fait. Je pense, moi-même je serais curieux de revoir une vidéo de la jungle dans les premières années parce que c'était beaucoup moins violent, ça jouait peut-être moins fort aussi. C'était moins dans les mimiques, il y avait beaucoup moins d'attitude scénique aussi. Mais là, comme je t'expliquais tantôt, tout ça c'est un vocabulaire que tu développes avec toi-même et avec ton comparse, avec les années. Donc non, pour répondre à ta question, c'était pas là au début. Et moi-même, je pense qu'il y a plein de trucs que je faisais pas au début, mais je crois vraiment que tourner, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver quand tu fais de la musique, en fait. Parce que autant tu peux avoir des super expériences en studio, etc. Je pense que nous, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On aime bien faire des nouveaux morceaux, et puis ben... faire des tournées parce que c'est là que tu développes tout ça, quand tu dis que Mathieu lève la tête pour chanter, pour avoir un truc plus animal peut-être, ou plus fort, ou plus convaincant, plus humain aussi. C'est pas voulu, je crois, c'est juste... tu le développes malgré toi, parce que si tu fais un pattern de batterie pendant 10 ans le même, il va forcément changer après 3, 4, 5 ans. Il va changer naturellement, que tu le veuilles ou non, parce que toi-même tu changes au fait, et donc du coup, ben, ça nous ferait chier d'avoir un set de la jungle qui était le même pendant 10 ans. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont rajoutées, dont le truc dont tu parles, qui est d'avoir une voix qui propulse peut-être plus. C'est vraiment un vocabulaire, quoi, je crois.
Même par rapport à la manière de chanter, de privilégier des fois une sorte de gargarisme plutôt que des paroles mêmes au niveau du truc. Alors, je ne sais pas comment vous écrivez encore, comment ça se passe. Est-ce que vous privilégiez d'abord la voix plutôt que l'écriture ou...
Récemment, on a fait des morceaux à texte. Les textes sont venus vraiment après. pour le coup, c'est des morceaux qu'on fait pas en live parce que on a déjà essayé, mais c'est beaucoup plus posé, on trouve ça moins intéressant. Du coup, on a quand même enregistré ces morceaux. Il faut les écouter, il faut écouter les disques et vous verrez qu'il y a des morceaux avec du texte. On les fait pas en live. Après, le côté gargarisme, tout ça, les onomatopées, machin, ça c'est un truc qui est propre à Mathieu c'est arrivé à partir du troisième album, je crois, plus ou moins. Au début, c'était vraiment plus discret, quoi. Jusqu'à un moment donné, il a voulu mettre de la voix et il s'est dit, mais en fait, je vais pas refaire un groupe avec des couplets et tout ça, parce que moi, ça m'intéressait pas, lui non plus, il l'avait déjà fait. Et du coup, il a opté plus pour les cris, etc. Et voilà, apparemment, les gens, par moment, ils se marrent avec ça. Enfin, ils y trouvent un côté marrant, en tout cas, du coup. C'est, voilà.
Ouais, il y a aussi des musiques, c'est du pure live, sans paroles, sans chansons, où on sent que vous êtes tous les deux connectés, où il y a une fusion qui s'opère, quoi.
Je crois que c'est bien qu'il y ait un mélange des deux. Moi, j'aime beaucoup l'instrumental. Pas que les albums à chant ou quoi m'emmerdent, mais j'aime beaucoup l'instrumental. Et avec Mathieu, là, on s'est mis d'accord, c'est sur le côté cri, plutôt un truc organique plutôt que convenu avec vraiment un phrasé, etc. On laisse ça aux autres. Il y en a d'autres qui le font bien mieux que nous, en vrai. Donc, voilà.
Je vous ai connu à travers le visuel d'un de vos précédents albums avec la pastèque la guillotine. Il y avait un côté ultra anarchiste à travers cette pochette d'album. Est-ce que vous êtes toujours aussi sur cette ligne-là en termes de visuel, de force, d'effet de création?
En fait, quand c'est sorti, il y avait des gens qui trouvaient ça hyper frais et puis d'autres qui disaient ouais. Je me rappelle à l'époque, on avait fait des t-shirts aussi avec cette pochette parce que c'est une guillotine qui tranche des pastèques, ça. C'est un peu sanguignolant, quoi. Mais en fait, c'est juste de la pastèque écrasée. À l'époque, il y a des personnes qui avaient réagi en disant « Ouais, c'est un peu hardcore, votre truc. » En même temps, non. Justement, c'est du second degré. Je veux dire, on ne met pas du vivant dans une guillotine. Tu mets un fruit. Et puis voilà. Et pour tout ce qui est hardcore, en fait, les visuels des albums, sauf le dernier qu'on a fait avec l'Art Brut, du coup, mais les cinq albums d'avant, c'est le même illustrateur qui s'appelle Gideon Chase. Il vient de Los Angeles, au fait. Mathieu l'a découvert sur Internet il y a des années. C'est un gars qu'on n'a jamais rencontré, mais chaque fois qu'on a fait un disque, on lui a écrit en disant « Voilà, est-ce qu'on peut t'emprunter ce visuel ?» Et puis celui avec les pastèques était juste... il allait très bien avec le deuxième, puis voilà. Simplement. C'est quelqu'un avec qui on a une collaboration de très longue durée. Et voilà, on aimerait le rencontrer un jour. Ce serait pas mal quand même.
Il y avait aussi un autocollant Lies sur une des sonos, les mensonges, quoi.
Alors au début, c'était Black Lives Matter au début. Mais le black a été arraché, le metteur aussi, à force de rentrer le truc dedans. Et du coup, il restait que lives, mais les vies. Et du coup, Mathieu a dit, oh, bah, je vais mettre lies. C'est pour ça qu'il a redécoupé le V qui est resté. Donc, mais au départ, c'était Black Lives Matter, en fait. Mais à force de charger, décharger, le truc s'est arraché, quoi. Et maintenant, c'est des mensonges, lies. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Moi, j'aime bien.
En termes de son, qu'est-ce que tu trouves de nouveau dans ce nouvel album qui est sorti là, fin juin? Qu'est-ce qui change par rapport au précédent?
Alors je crois qu'il y a deux choses. Déjà, c'est un album qui a été fait en confinement, du coup il y a des morceaux qui sont pas forcément taillés pour le live parce que c'était une période où on s'emmerdait et où surtout on s'est focalisé plus sur faire des morceaux qui nous plaisaient que de se dire on va préparer un nouveau concert. Donc ça, c'est une première chose. Il y a des morceaux que vous entendrez jamais en live qui sont très contemplatifs. C'était aussi le cas sur l'album d'avant qui a aussi été fait pendant le Covid, en fait. Ces deux albums, le 5e et le 6e, c'est... il y a plein de morceaux, je pense, qui sortiront jamais du disque, en fait. Voilà, c'était pas le cas des premiers albums, là c'est le cas pour ceux-là. Et la deuxième chose, je crois, c'est un peu dans la production. On a un studio en fleurs où on fait tous nos disques maintenant. Et il y a un peu un troisième homme qui s'appelle Hugo, qui est un ami, et qu'on voit ce mardi au Paléo, il va venir faire notre son en Suisse. Et qui, lui, essaye de pas juste nous laisser comme des punks avec notre son hyper crade, mais qui produit vraiment les choses. Derrière un disque, il n'y a pas que des musiciens, il y a toujours un mec avec des doigts magiques, quoi. Et voilà, c'est Hugo. Merci, Hugo.
Il y avait un ami qui avait fait la remarque comme quoi le dernier album s'approcherait même de la world music, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un pays qui vous inspire plus qu'un autre au niveau de la chaleur, au niveau des connotations musicales, peut-être?
Pas en termes de pays, je crois que j'ai pas assez de culture musicale pour te dire quel pays m'affectionne particulièrement. Je parle plutôt de labels, au fait. Plus des labels qui vont chercher des disques dans certains pays, c'est plus cette démarche-là, quoi. Nous, on est très... on commande beaucoup de trucs chez Bongo Joe en Suisse, par exemple. Ou chez Sile Sounds, qui est un super label qui est de Boston, mais qui lui va bosser avec plein de Touaregs, en fait, à qui il file des iPhones et une des dernières plaques qu'il a sorties sur ce label, sur Sile Sounds, ça s'appelle Music from Saharan WhatsApp, et en gros, c'est que des échanges via WhatsApp de musique de Touareg enregistrée dans le désert. Voilà, c'est pour ça que je parle de label, je parle plus de démarche que de courant musical ou de genre dans un pays, parce que ça, je t'avoue, j'y connais pas grand-chose, donc je peux pas m'aventurer là-dedans, je t'avoue. Voilà.
Il y avait du monde là pour venir vous voir au merch. Vous avez des bons retours en général. Les gens viennent vous donner des bons retours à la fin des concerts.
Bah oui, pas mal. Après, je crois qu'il y a un truc qui fait que c'est un groupe qui peut parler à un public assez large. C'est pas juste un groupe de rock. Il y a un côté dansant en fait, parce qu'il y a des loops. Et parce que, enfin, là on rentre un peu dans la technique du batteur, mais la grosse caisse, c'est pas une grosse caisse rock, c'est une grosse caisse qui est plutôt techno, disco. Même si voilà, je suis pas over fan de disco, je préfère la techno, mais. Le fait de placer un kick qui est très récurrent comme ça et qui est sur le temps, en fait, bah, c'est un truc de détail. Hein. Je sais pas si ça parle à tout le monde ce que je dis, mais ça influence vraiment le côté dansant de la musique. Et quand t'as un groupe dansant, en fait, c'est plus facile de tourner, de trouver des plans et de développer ton truc, je crois. Parce que plus tu fais de concerts, plus t'es habitué, et plus bah, au fait t'as tes habitudes et plus tu développes un truc qui est un peu bien, je crois. Parce que les tournées, c'est l'école de la vie, quoi. Donc voilà. C'est quand même plaisant après 10 ans que les gens viennent te dire que ce que tu fais est cool. C'est franchement pas mal. C'est une chance.
Et puis vous demandez aussi aux gens de vous approcher, vous avez besoin qu'ils soient vraiment collés à vous, quoi.
C'est un concert qui dure 50 minutes. Des fois on fait des heures et des heures de route pour arriver, s'installer, etc. On y met beaucoup de temps, d'énergie, c'est un peu nos vies maintenant. Donc nous on a nos familles, on a notre groupe, hein. C'est un peu ça, c'est notre quotidien, quoi. Et donc du coup on croit que ça peut valoir la peine que les gens se lèvent pour participer au truc, parce que humainement c'est comme ça qu'il se passe quelque chose. Si les gens étaient restés assis aujourd'hui, moi je me serais fait chier, Mathieu aussi en fait. C'est pas juste une question de jouer de la musique, c'est de partager un truc, quoi. Donc, ce groupe, on essaye vraiment de le garder à échelle humaine. Et quand demander aux gens de se rapprocher, ça change rien pour eux, en fait. Alors, pourquoi pas ? Comme ça, on rigole plus. Puis voilà.
Peut-être dernière question. On a vu aussi que vous faisiez pas mal de dessins pour les gens qui viennent vous voir après le concert au niveau des vinyles. C'est parce qu'ils connaissent déjà vos dessins aussi ? Vous faisiez déjà aussi un peu des dessins art brut
Non, c'est juste que si quelqu'un fait la démarche de te soutenir et claquer 20 balles dans un disque, ben. Tu peux lui rendre autrement qu'avec une simple signature qui est un peu nulle, en fait. Tu peux autant dessiner une connerie, même si tu sais pas dessiner, tout le monde sait dessiner un truc. Je veux dire, personne ne sait pas dessiner. Tout le monde sait dessiner au moins un truc. Même si c'est une maison, je sais pas, tu dessines une connerie, quoi. Ça fait... Et les gens préfèrent ça que juste ton nom, par exemple. Voilà, autant le faire, ça coûte rien.
Super, ben merci beaucoup. C'était Rémi, donc batteur de la jungle.
Merci. Il écrit la fin du monde sur ton t-shirt, c'est pas mal. Merci pour ce moment. À bientôt.
Et prochaine date avant la Suisse, tu nous as dit ?
Oui, demain on va à Arpagaï. C'est le festival du cinéma belge en Garrigue. C'est près du Zès, c'est ça. On va jouer, c'est demain à 20h. Voilà. Et puis on va au Paléo Festival mardi avec les Black Eyed Peas. Non, mais je suis pas du tout fan des Black Eyed Peas. En vrai, je m'en fous, mais ça me fait rigoler, quoi. Il y a Indochine aussi, mais c'est pas le même jour. Mais je m'en fous aussi. Voilà.
Super, merci beaucoup. Merci, Sam.
Ouais, un grand, grand merci. Merci, Rémi. Et bonne journée à tous. Ouais.